question. Oui, je suppose que c'est cela, ma question. Et je la pose au nom de tous les êtres, partout, qui ont ressenti les affreuses contraintes de l'expérience humaine. Et je ne parle pas à présent de limites physiques. Réponse. Je sais que ce n'est pas de cela dont tu parles. Question. Mais des limites émotionnelles et psychologiques. Réponse. Oui, je sais, je comprends. Mais tes préoccupations se rapportent toutes à la même grande question. Question. Oui, très bien, mais laisse-moi finir. Toute ma vie, j'ai été profondément frustré par l'incapacité du monde à me laisser aimer chaque personne de la manière exacte dont je le voulais. Quand j'étais jeune, il ne fallait pas parler aux inconnus, ni rien dire d'inconvenant. Je me rappelle un jour où je marchais dans la rue avec mon père, et où nous avons rencontré un pauvre homme mendiant des sous. Je me suis immédiatement senti malheureux pour cet homme et j'ai voulu lui donner quelques-unes des pièces que j'avais dans ma poche. Mais mon père m'a interrompu et m'a éloigné de cet individu en me disant « C'est de la racaille, c'est rien que de la racaille ». C'était là l'étiquette qu'il donnait à tous ceux qui n'étaient pas à la hauteur de cette définition de la dignité humaine. Plus tard, je me suis rappelé une expérience ayant trait à mon frère aîné, qui ne vivait plus avec nous et qu'on n'avait pas laissé entrer la veille de Noël en raison d'une dispute qu'il avait eue avec mon père. J'adorais mon frère et je voulais qu'il soit avec nous ce soir-là. Mais mon père l'a retenu sur le balcon avant et l'a empêché d'entrer. Ma mère était consternée. C'était son fils d'un mariage précédent. Et j'étais tout simplement perplexe. Comment pouvions-nous ne pas aimer ou désirer voir mon frère la veille de Noël uniquement à cause d'une dispute? Quel genre de discorde pouvait bien gâcher ce Noël alors que même les guerres étaient suspendues le temps d'une trêve de 24 heures? Mon petit cœur de 7 ans aurait tellement voulu savoir. En grandissant, j'ai appris que la colère seule n'empêchait pas l'amour de circuler, mais aussi la peur. C'est pour cela que nous ne devions pas parler aux inconnus, et pas seulement lorsque nous étions des enfants sans défense. Une fois devenu adulte aussi, j'ai appris qu'il n'était pas correct de rencontrer et d'accueillir des inconnus avec joie et ouvertement, et qu'il fallait respecter une certaine étiquette vis-à-vis des gens auxquels on venait d'être présenté. Et cela n'avait aucun sens pour moi. Je voulais tout savoir à propos de cette nouvelle personne, et je désirais qu'elle sache tout de moi. Mais non, selon les règles, nous devions attendre. Et maintenant, dans ma vie d'adulte, j'ai appris que les règles sont encore plus rigides et limitatives lorsque la sexualité entre en jeu. Et je ne comprends toujours pas. Je me rends compte que je veux simplement aimer et être aimé, que je veux seulement aimer tout le monde de la façon qui me semble naturelle, qui me fait du bien. Mais la société impose des règles et des lois si rigides que même si un partenaire consent à une expérience avec laquelle la société n'est pas d'accord, les deux amoureux sont mal jugés et condamnés. Qu'est-ce que tout cela signifie? Réponse. Eh bien, tu viens de le dire, c'est de la peur. Tout cela, c'est de la peur. Question. Oui, mais ces peurs sont-elles justifiées? Ces restrictions et ces contraintes ne sont-elles pas appropriées étant donné les comportements de notre race? Un homme rencontre une femme plus jeune, tombe amoureux, ou dans le désir, d'elle, et quitte sa femme. Je ne retiens qu'un exemple. Et celle-ci se retrouve seule avec les enfants et sans possibilité d'emploi à 39 ou à 43 ans. Ou pire, elle est abandonnée à 64 ans par un homme de 68 ans, tombé amoureux d'une femme plus jeune que sa fille. Réponse. Supposes-tu que l'homme que tu décris a cessé d'aimer sa femme de 64 ans? Question. À le voir, on dirait bien. Réponse. Non. Ce n'est pas sa femme qu'il n'aime plus et de qui il cherche à s'échapper. Ce sont les limites qu'on s'évertue à lui imposer. Question. Oh, foutaise, c'est du désir pur et simple. C'est un pépère qui essaie tout simplement de retrouver sa jeunesse et qui veut être avec une jeune femme parce qu'il est incapable de maîtriser ses appétits et de respecter sa promesse envers la partenaire qui restait avec lui tout au long des années de vache maigre. Réponse. Bien sûr, tu viens de le décrire à la perfection. Mais rien de ce que tu as dit n'a changé une seule chose à ce que j'ai affirmé. Dans presque tous les cas, cet homme n'a pas cessé d'aimer sa femme. Ce sont les limites imposées par sa femme, ou celles imposées par la jeune femme, qui ne veut pas être en relation avec lui, s'il reste avec sa femme, qui provoque cette rébellion. Ce que j'essaie de faire ressortir ici, c'est que l'âme se rebellera toujours devant les limites, de toutes sortes. C'est ce qui a engendré chaque révolution dans l'histoire de l'humanité. Et pas uniquement la révolution qui pousse un homme à quitter sa femme, ou une femme à soudainement quitter son mari, ce qui, à propos, se produit aussi. Question. Tu ne suggères certainement pas l'abolition totale des limites de comportement. Ce serait l'anarchie, le chaos social. Tu ne proposes sûrement pas que les gens s'offrent des aventures ou adoptent, Dieu m'en garde, le mariage ouvert. Réponse. Je ne défends pas et je n'évite pas de défendre quoi que ce soit. Je ne suis ni pour ni contre quoi que ce soit. La race humaine continue d'essayer de faire de moi le genre de Dieu qui est pour ou contre. Et je ne suis pas cela. J'observe tout simplement que telle est la réalité. Je vous regarde créer vos propres systèmes de bien et de mal, de pour et de contre, et j'observe afin de voir si vos idées actuelles à ce propos vous sont utiles, étant donné les choix et les désirs que vous déclarez en tant qu'espèce et en tant qu'individu. Alors, la question du mariage ouvert ? Je ne suis ni pour ni contre le mariage ouvert. Que tu le sois ou non dépend de ce que tu décides vouloir donner à ton mariage et en retirer. Et ta décision quant à cela crée qui tu es par rapport à l'expérience que tu appelles mariage. Car c'est comme je te l'ai dit, chaque geste est un geste d'autodéfinition. Lorsqu'on prend quelques décisions, que ce soit, il est important de s'assurer que l'on répond à la bonne question. La question concernant le prétendu mariage ouvert, par exemple, n'est pas « Aurons-nous un mariage ouvert dans lequel chaque partenaire aura le droit d'avoir des contacts sexuels avec d'autres personnes ?» La question est plutôt « Qui suis-je ? » Et qui sommes-nous devant l'expérience appelée mariage ? La réponse à cette question se trouvera dans la réponse à la question plus vaste de la vie « Qui suis-je ? » Point. Relativement à quoi que ce soit, en relation avec quoi que ce soit. Qui suis-je et qui est-ce que je choisis d'être ? Comme je l'ai dit à maintes reprises, tout au long de ce dialogue, la réponse à cette question est la réponse à toute question. Question. Mon Dieu, ça me frustre, car la réponse à cette question est si vaste et si générale qu'elle ne répond à aucune autre question. Réponse. Ah vraiment ? Alors, quelle est ta réponse à cette question ? Question. Selon ces livres, selon ce que tu sembles dire dans ce dialogue, je suis amour. C'est qui je suis vraiment ? Réponse. Excellent. Tu as appris, c'est juste. Tu es amour. Tout est amour. Alors tu es amour. Je suis amour. Il n'y a rien qui ne soit amour. Question. Et la peur ? Réponse. La peur, c'est ce que tu n'es pas. La peur est une fausse preuve qui paraît vraie. La peur est le contraire de l'amour que tu as créé dans ta réalité afin de pouvoir connaître de façon expérientielle ce que tu es. C'est ce qui est vrai dans le monde relatif de ton existence. En l'absence de ce que tu n'es pas, ce que tu es n'est pas. Question. Oui, nous avons déjà vu cela un certain nombre de fois au cours de notre dialogue, mais j'ai l'impression que tu as esquivé ma plainte. J'ai déclaré que la réponse à la question « Qui sommes-nous » c'est-à-dire l'amour, est si vaste qu'elle en devient une non-réponse, une absence de réponse. À presque toute autre question, tu dis que c'est la réponse à chaque question, et je réplique que ce n'est la réponse à aucune, encore moins une question aussi précise que « Notre mariage devrait-il être un mariage ouvert ?» Réponse. Si cela s'avère exact pour toi, c'est que tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Question. Quelqu'un le sait-il ? La race humaine tente de résoudre cette question depuis le commencement des temps. Réponse. Qui n'existe pas. Question. Qui n'existe pas. Oui, je sais, c'est une figure de style. Réponse. Permets-moi de voir si je peux trouver, en utilisant tes figures de style, quelques mots et quelques façons d'expliquer ce qu'est l'amour. Question. Super, ça serait vraiment merveilleux. Réponse. Le premier mot qui me vient à l'esprit est « illimité ». Ce qui est amour est illimité. Question. Eh bien, nous sommes en plein où nous étions lorsque nous avons entamé ce sujet. Nous tournons en rond. Réponse. Les cercles sont bons. Ne les rejette pas. Continue de tourner en rond. Continue de tourner autour de la question. Tourner en rond est une bonne chose. Répéter est correct. Revoir, réaffirmer est bien. Question. Je deviens parfois impatient. Réponse. Parfois. C'est drôlement amusant. Question. D'accord, d'accord. Poursuis ce que tu disais. Réponse. L'amour est ce qui est illimité. Il n'a ni commencement ni fin, ni avant ni après. L'amour a toujours été, est toujours et sera toujours. Alors, l'amour est également toujours. C'est la réalité de toujours. Revenons à un autre mot que nous avons déjà employé, la liberté. Car si l'amour est illimité, et toujours, alors l'amour est libre. L'amour est ce qui est parfaitement libre. Dans la réalité humaine, tu découvriras que tu as toujours cherché à aimer et à être aimé. Tu découvriras que tu aspireras sans cesse à ce que cet amour soit illimité. Et tu découvriras que tu voudras toujours être libre de l'exprimer. Dans chaque expérience de l'amour, tu chercheras la liberté, l'absence de limite et l'éternité. Tu ne l'obtiendras peut-être pas, mais c'est ce que tu chercheras. Tu le chercheras parce que c'est ce qu'est l'amour, et au fond de toi, tu le sais, car tu es amour. Et par l'expression de l'amour, tu désires connaître et faire l'expérience de qui et de ce que tu es. Tu es la vie exprimant la vie, l'amour exprimant l'amour, Dieu exprimant Dieu. Tous ces mots sont donc synonymes. Dis-toi qu'ils représentent la même notion, à savoir Dieu, vie, amour, illimité, éternel, libre. Tout ce qui n'est pas l'une de ces choses n'est aucune d'elles. Tu es tout cela, et tôt ou tard, tu chercheras à faire l'expérience de toi-même en tant que tout cela. Question. Qu'entends-tu par tôt ou tard? Réponse. Tout dépend à quel moment tu surmontes ta peur. Comme je l'ai expliqué, la peur est une fausse preuve qui paraît vraie. C'est ce que tu n'es pas. Tu chercheras à faire l'expérience de ce que tu es lorsque tu auras cessé de faire l'expérience de ce que tu n'es pas. Question. Qui veut expérimenter la peur? Réponse. Personne ne veut le faire. On vous l'enseigne. Un enfant n'éprouve aucune peur. Il se croit capable de tout. Un enfant n'éprouve aucun manque de liberté non plus. Il pense pouvoir aimer tout le monde. Un enfant ne ressent aucun manque de vie non plus. Les enfants s'imaginent qu'ils vivront éternellement. Et les gens qui agissent comme des enfants croient que rien ne peut les blesser. Un enfant ne connaît rien d'impie non plus, jusqu'à ce que les adultes lui enseignent des choses impies. Par conséquent, les enfants courent nus et donnent des accolades à tout le monde, sans s'en préoccuper, si seulement les adultes pouvaient en faire autant. Question. Eh bien, les enfants le font avec la beauté de l'innocence. Les adultes ne peuvent retrouver cette innocence, car lorsqu'ils se « déshabillent », entre guillemets, cette histoire de sexe est toujours présente à leur esprit. Réponse. Oui. Et bien sûr, Dieu nous en garde, cette histoire de sexe, comme tu le dis, ne peut être innocente et librement vécue. Question. En fait, Dieu nous en garde vraiment. Adam et Ève étaient parfaitement heureux quand ils couraient nus dans le jardin d'Éden, jusqu'à ce que Ève goûte aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors tu nous as condamnés à notre état actuel, car nous sommes tous coupables de ce péché originel. Réponse. Je n'ai rien fait de tel. Question. Je sais, mais il fallait que je tire un coup sur la religion organisée. Réponse. Essaie d'éviter cela si tu le peux. Question. Oui, il faut. Les partisans de la religion organisée n'ont pas tellement le sens de l'humour. Réponse. Te voilà reparti. Question. Pardon. Réponse. Je disais que vous survivrez en tant qu'espèce pour faire l'expérience d'un amour illimité, éternel et libre. L'institution du mariage a été votre tentative de création de l'éternité. Avec elle, vous êtes tombé d'accord pour devenir partenaire à vie. Mais cela n'a pas vraiment engendré un amour illimité et libre. Question. Pourquoi pas? Si le mariage est librement choisi, n'est-il pas une expression de la liberté? Et affirmer qu'on démontrera sexuellement son amour à personne d'autre que son conjoint représente non pas une limite, mais un choix. Et un choix ne constitue pas une limite, il est l'exercice de la liberté. Réponse. Pourvu que cela continue d'être un choix, oui. Question. Eh bien, il le faut, c'était la promesse. Réponse. Oui, et c'est là que les problèmes commencent. Question. Aide-moi. Réponse. Écoute, il peut venir un temps où, dans une relation, vous voudriez faire l'expérience d'un degré élevé de particularité. Ce n'est pas qu'une personne soit plus spéciale qu'une autre à vos yeux. C'est plutôt que la façon dont vous choisissez de démontrer à une personne la profondeur de l'amour que vous avez pour tous les gens et pour la vie même est unique à cette personne. En effet, la façon dont vous démontrez à présent votre amour envers chaque personne que vous aimez vraiment est unique. Vous ne démontrez jamais votre amour de façon identique à deux personnes. Parce que vous êtes une créature et un créateur d'originalité, tout ce que vous créez est original. Aucune pensée, parole ou action ne peut être répétée. Vous ne pouvez pas répéter, vous ne pouvez que créer. Sais-tu pourquoi il n'y a pas deux flocons de neige semblables? Parce qu'il est impossible qu'il le soit. La création n'est pas la duplication, et le créateur ne peut que créer. Voilà pourquoi il n'y a pas deux flocons de neige pareils, ni deux personnes identiques, ni deux pensées, ni deux relations, ni rien d'autre. L'univers, et chaque chose, existe au singulier, et vraiment rien d'autre n'y ressemble. Question. C'est encore là la divine dichotomie. Tout est singulier, mais tout est un. Réponse. Exactement. Chaque doigt de ta main est différent, mais c'est la même main. L'air de ta maison est le même partout, mais l'air d'une pièce à une autre ne l'est pas et laisse une impression carrément différente. Le même phénomène existe avec les gens. Tous ne font qu'un, mais il n'y a pas deux personnes similaires. Par conséquent, on ne peut aimer deux personnes de la même façon, même si on essayait, et on ne voudrait jamais, car l'amour est une réponse unique à ce qui reste unique. Alors, quand tu démontres ton amour à une personne, tu le fais d'une façon qui est impossible avec une autre. Tes pensées, tes paroles, tes gestes, tes réponses sont littéralement impossibles à reproduire, uniques, tout comme la personne pour laquelle tu éprouves ces sentiments. Si le temps est venu où tu désires cette démonstration spéciale avec une seule personne, alors choisis-la, comme tu le dis, annonce-la et déclare-la. Mais fais de ta déclaration une annonce, d'un instant à un autre, de ta liberté et non de ton obligation continue. Car l'amour véritable est toujours libre, et l'obligation ne peut exister dans l'espace de l'amour. Si tu considères ta décision d'exprimer ton amour d'une façon particulière, auprès d'un seul être distinct, comme une promesse sacrée à laquelle tu ne manqueras jamais, le jour viendra peut-être où tu feras l'expérience selon laquelle la promesse est une obligation et tu en auras du ressentiment. Mais si tu considères cette décision non pas comme une promesse faite une seule fois, mais comme un choix libre, refait à maintes reprises, ce jour de ressentiment ne viendra jamais. Rappelle-toi ceci, il n'y a qu'une promesse sacrée, et c'est de dire et vivre ta vérité. Toutes les autres promesses sont des renonciations à la liberté, et cela ne pourra jamais être sacré. Car la liberté, c'est qui vous êtes. Si tu renonces à la liberté, tu renonces à toi-même. Et ce n'est pas un sacrement, mais un blasphème.